vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 145, Valérie Dubac, les péchés du zodiaque. Chers amis, bonjour, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort, allez-vous confesser vos péchés ? Ah, mais je ne suis pas le bon Dieu. Et vous connaissez, chers amis auditeurs de Radio Judaïca Strasbourg, le goût prononcé pour le blasphème dans notre émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu. Alors, connaissez-vous les sept péchés capitaux ? Au diable, l'ignorance, notre invité aujourd'hui vous propose de jouer avec la morale qui vous pourrit parfois la vie, car elle en a fait un jeu des sept péchés capitaux. Oui, c'est une artiste très rigolote, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un jeu. Bonjour Valérie Dubac.
Bonjour.
Alors, vous avez fait un jeu de cartes, 84 cartes, sous les 12 signes du zodiaque pour jouer avec les péchés. Mais d'abord, rappelez-nous, quels sont les sept péchés capitaux ?
Alors, dans l'ordre étymologique, avarice, colère, envie, gourmandise, luxure, orgueil et paresse.
Voilà. Et quel est votre péché préféré ?
Je ne vais pas dire la paresse ni la gourmandise, c'est trop facile.
Oui, c'est ce qu'on disait quand on allait à la confesse.
L'avarice, ça m'amuse beaucoup.
Voilà. Oh, puis ça fait penser à Molière et tout, donc... Voilà, et tout. Alors, la luxure aussi. Mais alors, la luxure, c'est pas le goût pour le luxe. Hein. Par exemple, les parfums très chers, ou les tailleurs Chanel, ou les petits sacs Vuitton, là, ou une Rolls-Royce. Hein. Non, c'est pas ça, non.
Non, la luxure, c'est la perversité dans le sexe. Pas la perversion, la perversité. C'est-à-dire nier l'autre.
Ah oui.
Et par extrapolation, la luxure, c'est aussi... la perversité tout court.
Et donc ce péché de la luxure, qui est donc certainement très condamné par tous ceux qui soutiennent le mouvement MeToo, n'est pas un péché anti-moral. Ça n'empêche pas d'avoir une copine quand on est déjà marié ou un copain quand on est marié également.
Oui, bon, ça dépend. Les limites de la luxure ont changé au cours des siècles, hein, bien sûr. Mais elle reste un péché parce que il y a des déviances qui portent sur l'hygiène, sur la civilité, sur ce qu'on est capable d'imaginer. Même on a la zoophilie, par exemple.
Oui.
Voilà. Bon. C'est quand même condamné.
Oui, bien sûr. Bon, comme disait, je crois que c'est Nietzsche. Quelle est votre religion ? Je crois aux données immédiates de ma conscience. Donc effectivement, notre propre conscience doit nous donner des règles de bien vivre avec les autres. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce jeu ?
L'idée de ce jeu m'est venue un peu par hasard, mais ensuite il a été alimenté par mon intérêt pour la honte. Honte qui est quelque chose qui est souterrain dans nos sociétés et qui n'épargne personne à divers degrés, à divers niveaux. Et je trouve que c'est un jeu qui est propre à combattre la honte, finalement.
Oui, en Alsace, on dit « Yo, je reçois la honte hein. ». Voilà, je vous fais rire. Mais alors, j'ai lu aussi dans vos papiers que vous dites « La religion, c'est la honte ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, ben, la honte, c'est clairement le levier, l'outil qui permet de garder les gens dans les limites, et dans les limites qu'elle a décidées d'ailleurs. La honte, c'est le regard des autres, donc l'Église aussi organise tout ça, que les autres puissent vous faire honte parce que c'est interdit, etc. Donc c'est vraiment le moyen.
C'est un moyen de pression.
Ah oui.
Oui.
Ouais. Un moyen de gérer la société, puisque l'Église l'a faite
oui.
pendant des siècles.
Ben, là, en ce moment, aux États-Unis, il y en a un, il n'a pas honte. Hein.
Ah ben justement, il fait partie des grands éhontés, c'est-à-dire les narcissiques, les pervers narcissiques. Selon moi, hein, l'écrivaine Irigoyen a écrit un livre sur les pervers narcissiques. Elle y compte ces personnes-là. Parce que c'est un vrai problème, finalement. Et si on regarde dans leur enfance, si on regarde leur trajectoire, ils sont très, très mus par cette question de honte.
Oui.
Ouais, en fait, ils évitent la honte. C'est pour ça qu'on les dit « éhontés ». Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose... Ils n'ont jamais honte.
Mm-hmm. Et non pas « ahontés ».
Qui aurait pas, qui serait le contraire de la honte, quoi. Sans honte. Eux, ils ne sont pas sans honte, ils ont une honte, mais qu'ils refusent.
Oui, qu'ils renient. Donc
qu'ils renient.
Et éhontés, c'est quand on dit vous êtes éhontés, vous n'avez pas honte. Donc eux, vous les regardez, ils n'ont jamais honte. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait les qualifier, la honte.
Bon, alors j'ai déjà dit que vous êtes une artiste, une plasticienne, hein, comme on dit, sans honte, et que vous aimez travailler avec les couleurs. Alors dès qu'on parle de couleurs, on pense à qui ? À Michel Pastoureau. C'est, et alors aujourd'hui, vous êtes venu, alors à la radio, bien sûr, ça ne se voit pas, avec un magnifique pull. Alors, ce n'est pas rouge, ce n'est pas orange, quelle est la couleur de votre pull ?
Ah, on peut dire flamboyant.
Flamboyant, mais ce n'est pas une... Oui, flamboyant,
c'est un vermillon. Vermillon, exactement.
Voilà,
oui.
D'accord. Alors, vous travaillez la couleur, quelle que soit la matière, c'est ça ?
Oui, c'est vrai. C'est voilà. Vrai, avec le tissu, avec, je recouvre avec la peinture des choses... Les murs, j'ai fait des murs professionnellement sur, que je vendais au mètre carré, des enduits avec des profondeurs. J'ai fait ça pendant 12 ans et je pourrais toujours le faire, mais j'ai dû me reconvertir à cause des problèmes de santé, parce que c'est toujours le même geste, c'est très physique.
Oui, pas d'âge pour la jeunesse, mais quand même... Mais alors, vous êtes décoratrice. Alors, j'ai cité Michel Pastoureau. C'est un modèle, vraiment, pour les gens qui travaillaient dans la couleur. Enfin, en tout cas, c'est une référence philosophique ou sociologique, non ?
Oui, certainement. Surtout qu'il a fait plusieurs ouvrages sur le bleu, le noir,
le rouge, le jaune.
Oui,
si vous
vous intéressez aux couleurs,
oui.
Vous allez jeter un œil, forcément.
Voilà. Ah, je me souviens, à l'école, en cours de dessin, on apprenait... Qu'est-ce que le blanc ? Je crois que c'est Léonard de Vinci qui l'avait défini. Mais vous pourriez me donner la définition du blanc ?
Bon, on dit que les Esquimaux ont je ne sais pas combien de mots pour le blanc.
Oui.
Ça dépend. Ça pourrait être la non-couleur, enfin la virginité. Voilà.
Ah, oui. Que devient le blanc lorsque la neige a fondu ?
Le blanc,
c'est une question.
Ça devient du vert, parce que c'est le printemps.
Oui, c'est le printemps. Oui, alors, j'avais appris que le blanc, c'est la superposition optique des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et on faisait un cercle, enfin un rond, qu'on faisait tourner, on mettait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et la perception rétinienne fait que les 7 couleurs deviennent tout d'un coup du blanc.
Voilà. Oui, c'est vrai, c'est bluffant, c'est la vérité.
Voilà.
Les couleurs ne font pas du noir toutes mélangées.
Voilà.
Du blanc, du brun plutôt.
Donc vous êtes décoratrice d'intérieur. Et si on demande aujourd'hui à une décoratrice intérieure de décorer sa maison... Ben autrefois, on venait, on regardait les rideaux, les murs, et puis on faisait des propositions. Aujourd'hui, je crois, on utilise un logiciel. C'est l'ordinateur qui décide, c'est ça ?
L'ordinateur permet de faire des simulations.
Oui.
C'est-à-dire que bon, c'est quand même pas si accessible comme ça pour la personne qui veut décorer chez elle et qui n'a pas d'habitude de l'informatique. Mais ça reste accessible quand même. Et les logiciels se démocratisent de plus en plus et deviennent de plus en plus faciles, accessibles. Voilà.
Facile, oui. Mais on a quand même besoin du bon goût de la décoratrice.
Alors, les couleurs, c'est une autre chose.
Oui, alors, je déteste cette phrase des goûts et des couleurs, ça se discute pas. Si, ça se discute.
Ça se discute parce que si vous voulez donner vraiment la joie chez vous, il faut savoir manier les couleurs. Parce que vous avez des couleurs qui peuvent jurer entre elles. Mmh. Ça, c'est très désagréable au quotidien.
Jurer, c'est pas un péché.
Jurer, c'est certainement un péché, c'est oui. Le blasphème.
Ah, vive le blasphème.
Enfin, c'est des jurons blasphématoires, bien sûr.
Voilà, mais le blasphème, c'est le symbole de la liberté d'expression.
De nos jours, c'est très autorisé.
C'est très
autorisé. Et même quotidien.
Oui. Donc, alors, on en revient à votre jeu de cartes. Valérie Dubac, vous avez suivi les 12 signes du zodiaque. Je dis ça pour la rime.
Oui, c'est bien. Oui.
Alors pourquoi, pourquoi le zodiaque? Qu'est-ce que ça a à voir avec les couleurs?
Alors, les couleurs, c'est vrai que ça donne des couleurs à la morale, on va dire. Parce que pendant tous les siècles dominés par la chrétienté, on n'avait pas d'autre prisme. Et le zodiaque, quand il est arrivé au XXe siècle, il nous a quand même un petit peu soulagés, parce qu'on avait une autre façon de se regarder, de s'analyser. Enfin, c'était beaucoup plus souple. On avait la morale et on avait les zodiaques.
Et on avait peur du diable, d'aller en enfer. Georges Duby en parle voilà, au Moyen-Âge. Et donc...
oui, enfin, c'était la peur.
On suivait aveuglement. Oui, et puis comme les gens étaient aussi... illettrés, ils regardaient les fresques murales dans les synagogues, mais surtout dans les églises, et les couleurs avaient un sens. On savait que telle couleur, c'était le diable, telle autre, c'était la douceur, la gentillesse, mais c'est pas le zodiaque, ça. Les signes du zodiaque qu'on trouve dans les revues pour rigoler, moi je suis poisson, je dis ce matin, brossez-vous trois fois les dents, très bien, c'est très sympa. C'est pas sérieux, ça, si?
Ah, c'est sérieux pour beaucoup de gens.
Il suffit d'y croire, quoi.
Non, je pense qu'il n'y a pas que ça. On en a besoin aussi, on en a besoin justement pour desserrer un peu les liens de la morale chrétienne.
C'est de l'irrationnel...
comme la morale chrétienne.
Thérapeutique, ou, oui.
Oui, c'est comme les règles morales de la chrétienté. Mais les règles morales de la chrétienté sont plus contraignantes. Elles sont des sentinelles en nous. On en a besoin.
C'est le bon sens. On n'est pas obligé d'être chrétien pour suivre le bon sens. Non.
Oui, mais est-ce que c'est sûr que le bon sens... soit présent en nous si nous n'avions pas eu cette inscription par la chrétienté.
Ah voilà. Donc ça, c'est un atavisme que l'on a tous comme ça. Oui. C'est...
Oui, je pense. Oui. Je pense que elles sont... Enfin, les péchés... bon, là, les sept péchés capitaux, c'est un petit peu arbitraire. À l'époque, on a dit sept péchés, mais ça a été aussi controversé. Il y en a d'autres. Hein. Il y a l'égoïsme, l'impatience. Ce sont des péchés ou des défauts que nous avons inscrites en nous et qui nous dirigent toute la journée, en fait.
Oui. Donc, c'est un mode de vie en société.
Oui. Ah, oui, c'est ça.
Voilà. Alors, on en revient à vos cartes. Est-ce que vous pouvez m'en décrire une?
Oui. Bon, par exemple, il y a un recto qui est très littéraire. Alors, c'est un texte qui est ou en prose ou en vers et qui possède une chute. C'est-à-dire que la dernière phrase a un petit côté percutant. Et ce texte littéraire vous donne un cadre, vous plante le décor dans lequel vous allez vous imaginer. Bien sûr, après, vous allez broder ou bien subvertir ce décor, mais il vous met tout de suite dans un imaginaire. Et comme c'est littéraire, vous allez être un peu plus... certes, vous allez solliciter plus de...
C'est une citation d'un grand écrivain ou c'est...
Non, ce sont des textes écrits par moi.
Ah,
voilà. Bah,
vous êtes une grande écrivain ou écrivaine ou auteureux.
Je suis auteureux.
Auteureux.
Oui, d'ailleurs je le revendique, 84 cartes de même niveau littéraire, c'est difficile à écrire. surtout quand c'est
pour
sur une
petite surface.
Pour
ne pas dire deux fois
surface.
La même chose, oui.
Oui, déjà, et que ce soit tout aussi percutant, chaque
Donc
carte.
Donc c'est un peu un livre, votre jeu de cartes.
Ah, tout à fait.
Ah, ouais. Voilà.
D'ailleurs, je pense l'éditer en livre aussi.
Ouais. Voilà.
Avec d'autres textes, plus développés.
Voilà.
Mais au verso de chaque carte, il y a un résumé du texte littéraire, parce que le texte littéraire est parfois un peu abrupt, et quand on joue, on n'a pas besoin de se prendre la tête.
Oui.
Mais ça alimente quand même le jeu, dans le sens où ça donne au jeu son côté littéraire.
Voilà. Oui. Bon, vous savez que dans notre émission, vous l'avez bien connu, sur Radio Judaïque à Strasbourg, chère Valérie Dubac, on parle surtout de rien. Hein. Donc là, vous faites le tour de tout avec vos 84 cartes. Hein, si vous êtes obligé de parler donc des sept péchés capitaux et de toute la société, de toute la vie, c'est une espèce de Bible que vous faites.
Oui, un petit peu. Oui. Et c'est assez agréable pour les joueurs parce qu'ils y participent.
Oui, alors ça se joue à combien ?
Bon, vous pouvez le jouer à deux, hein, si vous êtes en mal de conversation avec quelqu'un, vous sortez une carte et vous brodez. Hein.
Alors, vous sortez la carte, vous la lisez.
Voilà.
Et l'autre, il doit la commenter.
En fait, il y a huit épreuves. Mm-hmm. Huit épreuves. Donc, il y a, vous êtes invité sur un plateau télévisé par un journaliste. Donc, votre interlocuteur sera un journaliste qui va vous interroger. Vous rencontrez un ex ou vous êtes en rupture. Donc, vous parlez à votre partenaire. Vous allez chez vos parents, donc ça peut être votre tante, vos frères et sœurs, vos parents.
Et vous savez que vous allez manger de la blanquette de veau.
Ah oui.
Parce qu'un jour, vous avez dit « Ah, j'adore la blanquette de veau ». Donc, chaque dimanche, vous avez la blanquette de veau. Non, je brode là aussi. Mais l'adversaire, entre guillemets, ou le partenaire en face de vous, vous tirez la carte, vous lui donnez, et il lit les questions et vous devez répondre. C'est ça le jeu.
Oui, vous découvrez la carte, donc vous avez le décor qui est planté, et tous les deux, vous êtes là-dedans. Et vous avez une épreuve. Donc, sur les huit épreuves, voilà, ça peut être vous êtes invité sur un plateau télévisé.
Mmh.
Et c'est en aucun cas un adversaire, puisque le jeu est basé sur le oui. C'est-à-dire, vous devez accepter, comme dans les jeux d'impro, ce que l'autre dit pour pouvoir avancer.
D'accord. Et il y a un animateur, si on y est à trois ?
Voilà, à trois, il y a un animateur qu'on appelle un modérateur, oui, parce qu'il modère, et on l'appelle Dieu.
Ah !
Voilà.
C'est audacieux, ça.
Il y a Dieu. Ah bah, allons-y.
On est tous Dieu, donc. Et alors, comment on fait ? On tire au sort et on est Dieu.
Oui, c'est tiré au dé. Enfin, tout le monde a un dé chez soi. Hein.
Bon. Ah oui, oui.
Voilà.
Donc, Dieu est un... Oui, Dieu est un dé. Enfin, oui. Oui, alors, oui, là, on blasphème un peu. Bon, chers auditeurs qui avaient des oreilles un peu chastes. Voilà, mais c'est un jeu, donc on a le droit de jouer. Ça n'empêche pas d'être sérieux, hein, parce que c'est philosophique et tout. En fait, c'est drôlement sérieux, votre truc, là. C'est un peu thérapeutique en même temps. Et puis, le fait d'appeler l'animateur, je répète, Dieu, c'est de la provoque ou c'est vraiment sérieux ?
C'est un supplément d'humour, ça va avec, ça fait partie de l'esthétique.
Alors Dieu a beaucoup d'humour.
Oui, bien sûr.
Et alors, donc, Dieu, il est à la fois avocat et procureur.
Dieu, en fait, oui, parce qu'il y a une épreuve qui s'appelle le tribunal. À ce moment-là, lui, il est peut-être juge, ça dépend combien on est, mais il peut être, oui, procureur, il peut être juste juge. Si vous êtes quatre, vous avez un procureur, un avocat.
Est-ce qu'il peut être bourreau aussi ?
Si le juge est un peu un bourreau, je ne sais pas, mais, mais son rôle n'est pas vraiment de négatif, son rôle est plutôt
positif.
De modéré.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ?
On gagne la surprise qu'on a d'avoir sollicité des ressources qu'on ne se connaissait pas, déjà. Puisque dans ce jeu d'impro, j'ai remarqué, parce que je l'ai pratiqué, les gens sont très surprenants et se surprennent eux-mêmes. Et c'est très, très drôle. Donc, ce qu'on gagne, c'est de jouer, mais vraiment pour jouer, parce qu'il peut n'y avoir aucun enjeu. C'est-à-dire qu'a priori, ce jeu... n'est pas un jeu où on gagne ou on perd. C'est un jeu pour jouer. C'est-à-dire...
C'est un jeu joyeux.
Oui.
Oui.
Ah oui.
Oui.
Bah, c'est fait pour. C'est...
Ah oui, donc voilà. Mais ça compte quand même pour du beurre. On ne va pas se fâcher après avoir joué.
Oh non, jamais de la vie. Non. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut se mesurer au péché. C'est-à-dire qu'on est à la hauteur des péchés.
Oui.
Et là, c'est rigolo parce qu'il y a une charge dans les péchés. Donc, à proximité des péchés, il y a une sorte d'intensité. Et c'est ça qui fait le ressort du jeu.
On se découvre soi-même, en fait, comme ça.
Ah oui ?
Oui.
Oui, tout à fait.
C'est moins cher que le psychanalyste, votre jeu.
Bah, c'est même mieux parce que c'est une thérapie de groupe.
Oui.
Finalement.
Oui. Ah oui, mais alors, bon, c'est un groupe, mais c'est quand même deux par deux. Ou alors c'est un devant trois, quatre personnes aussi, c'est possible ?
C'est deux par deux. Non, ça ne peut pas être un. C'est deux par deux ou trois quand c'est par exemple tribunal. Mm-hmm. Où il y a, dans le jeu télévisé, il peut y avoir les téléspectateurs qui appellent. Donc Dieu décide que tel téléspectateur a dit ça, pose cette question. Mm-hmm.
Est-ce que Montaigne et la Boétie auraient pu jouer à votre jeu qui disait, on est kiff-kiff tous les deux, tellement qu'on s'aime, on est les meilleurs amis du monde parce que c'est lui, parce que c'est moi, sans savoir pourquoi.
Oh, ils auraient adoré la charge très forte sur les péchés. Je pense qu'ils auraient... Ça les aurait beaucoup stimulés.
Oui.
Ouais, ça les aurait sans doute relancés dans leur réflexion sur eux-mêmes déjà, et ça les aurait fait dépasser certaines choses, je pense.
Oui. Ah, vous pourriez écrire une suite là, à Montaigne, non? Dans votre livre là. Non, je pense à un autre couple aussi, Bouvard et Pécuchet. Alors eux, ils explorent aussi tous les péchés, toutes les sciences, tous les... Enfin, c'est la somme finale de Flaubert. Mais ils n'avaient pas vraiment l'esprit ludique quand même. Mais quand même, ça serait un couple assez rigolo là.
Ce serait surtout drôle de les voir faire ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas trop leur ADN,
oui.
A priori. Mais... Oui, s'explorer eux-mêmes à l'intérieur, ça aurait été une autre paire de manches pour eux aussi.
Oui, oui. Ouais. Alors, puisqu'on s'amuse à jouer au couple comme ça, Adam et Ève, s'ils avaient joué à cela ?
Adam et Ève, s'ils avaient découvert tout de suite tous les péchés, oui, ils auraient été un peu instruits sur la suite. Et ce ne serait pas comme ça...
On ne serait peut-être pas là, parce qu'ils seraient toujours au paradis, avec des pommes et un serpent. et oui...
Il penserait qu'à jouer, oui.
Oui.
Et oui. Donc, il ne ferait rien d'autre.
Voilà. Qu'est-ce que tu as fait ce matin à l'école ? Ben, on a joué toute la journée. On joue toute la journée, voilà, et on bouge plus, voilà. Bon, eh ben, écoutez, c'est formidable, cette histoire-là, parce que ce sera bientôt... on va le trouver dans les librairies à Strasbourg, ce jeu, oui, diffusé, oui, voilà.
Bah, ouais. J'espère trouver un éditeur, là. Je n'en suis pas encore là.
D'accord. Quelle sera la couleur de votre couverture ? Vous avez déjà pensé ? Le bleu Klein ?
Non, parce que justement là, comme les péchés, les signes du zodiaque sont quand même pleins de couleurs,
oui.
Je reste dans le blanc.
D'accord.
Je vais rester dans le blanc.
Alors, je sais que vous avez fait un gros péché. Alors, ce n'est pas un péché mortel, mais quand même... Et en même temps, vous êtes fier. Alors là, je vois l'intrigue dans vos yeux, parce qu'on a bien sûr préparé l'émission. Vous m'avez dit, j'ai commencé à fumer à 64 ans. C'est très drôle, ça. Alors, en tout cas, c'est pas banal. Hein. Vous m'avez dit, je fais du footing, je regarde des séries, je vais l'après-midi à la piscine, donc je suis quelqu'un de très banal. Et vous avez commencé à fumer à 64 ans. C'est par goût du péché ?
Oui, c'est... Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce qui m'a pris. J'avais, tout à coup, je me suis dit que ça me plairait.
Oui.
Ouais.
Et ça vous plaît toujours ?
Ça me plaît toujours.
Vous avez continué ? Ah oui.
Bon, je ne fume pas énormément.
Un paquet par jour, non ?
Non.
Non.
Très, très loin de là.
Une cigarette par semaine ?
Non. Non. Quand même plus.
Non. Moi, je n'ai jamais fumé de ma vie, donc je peux me moquer des fumeurs. De temps en temps, le jour du Nouvel An, je me dis, allez, cette année, je me mets à fumer. Non, je blague, hein. Chers auditeurs, ne fumez pas. J'ai des copains qui sont toubibs qui me disent les ravages de la cigarette. Puis en plus, ça sent pas bon.
Non.
En plus, pour embrasser un garçon ou une fille, quand on vient de fumer une cigarette, c'est pas très bon non plus.
Non, c'est vrai qu'on n'est pas une cheminée d'usine. Hein.
Oui, ouais.
C'est ce que je me dis à chaque fois que j'ai envie de fumer.
Bien, eh ben, écoutez, c'est, ben, on s'est bien amusé là. Hein. Ben, voilà, vous êtes quelqu'un de passionnant et d'insolite. Bon, c'était quoi quand même ce déclic là à 64 ans pour de commencer à fumer? Je m'excuse de répéter votre âge, mais...
Bon, je voulais mettre un petit surplus de plaisir dans ma vie, un plaisir de plus.
Ah ben voilà, bon, il y en a simplement. Plein d'autres, hein, des plaisirs. Hein.
Oui, je sais voilà. Qu'il y en a plein d'autres.
Bon, bah alors, vive le plaisir, c'est donc notre conclusion. C'était l'épisode numéro 145, Valérie Dubac, les péchés du Zodiac. Alors, vous avez dit que vous faites du footing et tout ça. Vous avez vraiment envie d'être quelqu'un de très banal?
Non, je ne suis pas banal, je fais beaucoup de choses.
Oui, oui, voilà. Donc, dans le titre, je dis les péchés du zodiaque, mais c'est juste pour avoir un titre un peu court et une rime. Mais bien sûr, ce ne sont pas les zodiaques qui font des péchés. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine, nous recevrons un écrivain alsacien absolument déconcertant, Pierre Boutier. Il croyait faire de la fiction et la réalité était plus forte de ce qu'il n'osait pas inventer. Des flics résistants déportés. Le livre s'appelle « Nuit et brouillard au bord de la Garonne ». Vous l'avez bien connu à la technique, Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin.